Bonjour à toutes et à tous, vous êtes avec les neveux de René, une émission dédiée à la méditation des textes de la philosophie et à la lumière de l'actualité. Alors, cette émission reprend du service après une longue interruption due à la maladie du coronavirus qui a évidemment tout bouleversé, tout mis sens dessus-dessous, et nous souhaitons précisément reprendre avec une méditation sur cette époque que nous sommes en train de vivre.
Chemin de pensée avec les neveux de René.
Alors cette émission est enregistrée le mercredi 27 janvier 2020, à l'époque où on se demande s'il va y avoir ou non un troisième reconfinement. Comme point de départ de notre méditation et de notre réflexion sur cette époque qui est évidemment dominée par quelque chose qui au départ était anodin, je vous rappelle que il y a quelques mois de ça, ça n'avait l'air de rien. On a vu un virus arriver et puis on s'est dit, bon, encore quelque chose qui a touché la Chine, puis ça a touché l'Italie. Puis on s'est inquiété quand il y avait quelques dizaines de morts et quelques centaines de cas. Et puis ça a pris l'ampleur d'un tsunami qui a évidemment modifié profondément nos vies, qui nous a amené à vivre des confinements, des couvre-feux, des situations étranges avec une place Stanislas totalement vide, des relations humaines mises à mal, évidemment, des familles, des couples, des choses cruelles qui ont été vécues, notamment lors du premier confinement, lors de la suppression notamment des cérémonies d'entraînement. Donc on souhaite, lors de cette émission, se demander si, oui ou non, la méditation des quelques auteurs de philosophie peut nous aider, non seulement individuellement, évidemment, à prendre du recul par rapport à tout ce que nous vivons et qui souvent nous écrase, mais surtout et avant tout politiquement, c'est-à-dire collectivement. Voilà. Alors, je souhaite donner la parole à Anne, qui va peut-être nous lire simplement le quatrième de couverture d'un essai. Un essai, c'est quelque chose qui est rédigé dans un temps très court, qui n'a pas pour but d'être une somme de connaissances bien établie, mais de faire réfléchir. Et cet essai a été écrit par Olivier Rey, auteur dont on a déjà eu l'occasion de discuter à cette table. C'est quelqu'un qu'on apprécie parce que c'est quelqu'un qui a une formation scientifique, mais qui va au-delà de la science dans sa réflexion et qui questionne, et qui a écrit un petit essai qui est paru dans la collection Tract Gallimard. Ça coûte 4 euros en librairie, même moins cher si vous prenez l'édition en ligne, mais on conseillera évidemment la version papier. Et puis voilà, c'est paru, je crois, en mai 2020. Alors on donne la parole à Anne pour nous lire ce quatrième de couverture.
En tant qu'il commande un respect absolu, le sacré se trouvait anciennement placé au-dessus de la vie. C'est pourquoi il pouvait, le cas échéant, réclamer le sacrifice de celle-ci. Comment la vie nue en est-elle venue à prendre elle-même la place du sacré ? Au point que sa conservation, comme l'a montré la crise engendrée en 2020 par l'épidémie de coronavirus, semble bien être devenue le fondement ultime de la légitimité de nos gouvernements. Que cela apprend-il du rapport des populations à la politique, au pouvoir ? À quelle servitude nous disposons-nous si nous accordons à la vie la position suprême ? Et je vais ajouter la petite phrase qui est tout en haut du quatrième de couverture. Quand on ne peut plus donner sa vie, il ne reste plus qu'à la conserver.
Voilà. Alors, la question est posée en des termes très clairs par Olivier Rey. Il y a évidemment nécessité de conserver la vie, certes, mais à quel prix ? À quel prix et quelle vie souhaitons-nous conserver ? Et ça va être le thème dont on va discuter pendant cette émission. Quelle est la vie que nous souhaitons conserver ? Est-ce que c'est la vie nue, la vie à tout prix ? Conserver toute vie, quoi qu'il en coûte, tout le temps, et quels que soient les moyens mis en place, comme si c'était l'objectif suprême, ou alors repenser ce que nous souhaitons conserver collectivement comme vie. Voilà. Alors, Anne, tu disais que ce qui t'avait intéressé, surpris ou attiré ton attention dans cet extrait quatrième de couverture, c'était que ce sacré, en fait, nous avons remplacé le fait de sauver, des vies, est interprété par le conserver des vies.
Oui, parce que...
C'était Annie, en fait, pardon.
D'accord, on va laisser la place à Annie.
Non, mais je suis désolé.
Il n'y a rien de grave, c'est une observation sur le vocabulaire. C'est-à-dire oui. Le terme de conserver a pris la place de sauver. Mmh. Avec sauver, il y a une dimension de salut, c'est-à-dire on introduit une question qui est relative au sacré. Quand on utilise le verbe conserver, il s'agit de faire durer la vie et plutôt dans sa dimension biologique.
Oui, oui.
C'est comme ça que je comprends.
Et donc ça fait écho à la communication à laquelle nous sommes tous, que nous recevons tous, qui est d'abord une communication de chiffres. Et chiffres signifient donc passer dans le fait de compter. Et souvent, quand on dit « est-ce qu'on a pris une bonne décision politique ?», c'est souvent par le chiffre qu'on va estimer si la décision était bonne ou non, ou combien de vies. Voilà. Voilà. Anne, tu voulais ajouter alors. Pour le coup, c'est pas Annie, c'est Anne. Oui.
Oui, enfin, il y avait aussi toute. Donc, elle nous fait remarquer qu'il y a la dimension du sacré, que avant le sacré était au-dessus de la vie, que le sacré a disparu, et qu'il y a plusieurs choses. Ça implique un grand nombre de choses. Déjà, quand il dit bien, quand on ne peut plus donner sa vie, donc il y a une notion de qu'est-ce qui va se passer si tout d'un coup la communauté est mise à mal, s'il faut qu'il y ait un certain nombre de sacrifices comme il y avait avant, par exemple tout simplement quand il y avait des guerres, est-ce que les gens sont capables encore de donner leur vie, puisque la vie est plus importante que tout, ça je pense que c'est quelque chose d'important pour lui, et puis il y a toute la dimension de quelle vie voulons-nous, est-ce que c'est une vie qu'il appelle une vie nue, c'est-à-dire voilà, une vie dépourvue de toute spiritualité, et est-ce qu'il faut finalement aussi abandonner sa liberté pour vivre un peu plus longtemps.
Alors, donc, abandonner sa liberté, évidemment, ça fait écho à toutes les mesures de confinement, de restrictions. Ce matin même, à la radio, sur France Culture, une question que posent souvent les journalistes, il y avait Bruno Le Maire qui était interviewé, et souvent les journalistes disent toujours « Ah, ben voyez, ceux qui ont bien réussi, c'est la Chine, c'est Taïwan, etc. » puisqu'ils ont effectivement jugulé l'épidémie, mais au prix d'une restriction des libertés extrême.
Que nous n'accepterions pas.
Néanmoins,
Ray se trouve quand même assez bizarre. Ça le questionne la facilité avec les citoyens, avec laquelle les citoyens ont accepté d'être confinés, le questionne quand même.
Oui, effectivement. Et je voulais juste dire une chose par rapport à des solutions autoritaires. Elles se font par l'application de mesures drastiques médiées par la technologie. Je crois avoir vu qu'en Chine, il y avait, c'était le smartphone qui dit si j'ai le droit d'aller à tel ou tel endroit. Donc ça aussi, c'est un aspect intéressant. Et je crois que Ray, étant un lecteur de Illich, l'auteur Ivan Illich, qui ne va pas être le même que celui qui va citer un moment, il dit que nous avons un point atteint en termes médicaux, en termes d'organisation de la société, des seuils de contre-productivité, au sens où ce que nous dépensons pour sauver des vies ou pour n'importe quoi est trop coûteux par rapport aux bénéfices que cela emploie.
Alors là, Nazim, je réagis parce que je suis très étonné de t'entendre dire que le coût devient quelque chose de primordial face à la vie.
Oui, alors c'est ça. C'est-à-dire, il s'agit évidemment pas d'un coût purement économique, mais d'abord le premier coût auquel on peut penser, c'est l'épuisement des ressources. Donc évidemment, notre niveau de vie s'est considérablement accru ces 50 dernières années, mais c'est au prix d'un épuisement drastique des possibilités de ce que peut donner la planète.
Alors pour le coup, l'épidémie a mis un petit arrêt à ce...
Alors ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, effectivement. On peut dire que c'est plutôt une bonne nouvelle, en quelque sorte, que certaines choses aient été ralenties, qu'il voit qu'il y a possibilité de ralentissement.
On a vu effectivement des diminutions de pollution dans les grandes villes et autres. Hein,
oui, on a vu des animaux qui reprenaient le. Oui, c'est ça, oui. Oui, oui Anne, tu voulais dire ?
Oui, mais alors il y a aussi effectivement ce que dit Ray, c'est que malheureusement, le gouvernement s'appuie souvent sur la santé pour justifier un développement des technologies, un développement toujours plus poussé qui pour lui est mortifère, puisqu'il aboutit à l'écologie. Donc ce qui est en train de se passer, malheureusement, n'est pas un garant que ça va être mieux après. Voilà, c'est ça le drame. Si ça pouvait être.
Il dit, c'est l'argument massif, c'est-à-dire si on fait témoigner des associations de malades, on va arriver à avoir plus de crédits, à mettre plus de choses dans l'hôpital. Mais ça pose, à mon avis, une question de première importance. Par exemple, est-ce que on veut plus de soins médicaux ou non ? Et là, on peut écouter par exemple une chronique qui a été faite par Daniel Moise, qu'on peut lire. Elle faisait avant des chroniques dans La Croix, elle a arrêté, mais ses chroniques sont toujours en ligne. Et puis sur le site philosophie.tv, philosophie avec un S.tv.
Mediapart.
Et maintenant, elle est passée à Mediapart. Maintenant, effectivement, elle écrit ses chroniques dans Mediapart. Et elle dit quand même que l'hôpital étant sous la coupe du management, les soignants, lors du premier déferlement de malades, avant le premier confinement, ont été amenés à devoir choisir qui ils allaient sauver ou pas. Et que là, il y a une sorte d'atteinte à la dignité humaine.
Oui, en fait, là, ça rejoint l'idée du sacré dont tu parlais au début, Anne. Parce que, effectivement, dans l'idée du sacré que l'on peut se faire, et notamment dans l'idée de la divinité, le droit de vie et de mort, souvent, est associé à Dieu. La difficulté qu'on a là avec le problème des hôpitaux et de la saturation des hôpitaux, c'est que, quelque part, l'homme prend la place de Dieu, puisqu'on se met à la place du choix de la vie de certains et pas des autres.
Oui.
Et ça, c'est effectivement quelque chose qui est très compliqué pour une personne, pour un être humain, quel qu'il soit, qui a envie, évidemment, en tant que médecin, on imagine bien que l'idée, c'est justement de conserver au maximum la vie des patients. Et là, de devoir choisir, c'est quelque chose qui est clairement traumatisant. On peut imaginer que c'est un vrai problème.
C'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Et justement, pourquoi est-ce qu'on n'est plus capable, entre guillemets, ou est-ce qu'il faudrait être finalement capable de dire... on ne peut pas sauver tout le monde. Est-ce que ça, c'est envisageable ?
Mais elle trouve que c'est une véritable contradiction, parce que c'est une trahison du serment d'Hippocrate chez les médecins, sont conduits à ça face à une demande.
Oui.
Donc, elle ne propose pas de solution.
Oui.
Mais je crois que la question qui est posée, après, c'est l'attitude non plus des soignants, mais l'attitude des gens qui sont soignés, de chacun de nous.
Oui.
Alors, quel sens on va donner à notre vie ?
La responsabilité individuelle, tu veux dire.
Oui. C'est-à-dire quel sens on donne à notre vie. Et est-ce qu'on n'est pas en train de vivre un temps d'individualisme exacerbé où justement on demande, attends, mais il faut me sauver à tout prix, je veux vivre, je veux, quoi. Donc ça nous pose la question politique, comment je crois que le danger que veut souligner Olivier Ray, c'est de dire que la légitimité des gouvernants va reposer sur le fait qu'ils nous sauvent ou qu'ils ne nous sauvent pas. Et là, il y a un danger.
Mais c'est ce qu'il dit. Il dit complètement que ça repose. D'ailleurs, il refait un petit historique très, très intéressant en partant un peu du contrat social et comment tout cela a évolué.
Oui.
Il raconte, il amène aussi au début de l'histoire, quand des ministres de Louis XIII commençaient à se soucier des grandes famines et commençaient à mettre du blé, etc. Donc ça a commencé petit à petit, cette conscience. Elle ne date pas juste de maintenant. Mais effectivement, le gouvernement a sa légitimité quelque part dans le contrat social de sauver les gens. Pourquoi les gens ne peuvent pas être libres ? Parce qu'on va vous sauver, on va vous protéger.
Et d'où le risque de surenchère technologique, d'aller toujours vers l'extrême, parce qu'on ne sera jamais content. Il faudra après nous sauver jusqu'à 120 ans, et puis après jusqu'à 150.
Est-ce que
ça s'arrête, ce mouvement ?
Il y a quelque chose qui m'interpelle dans ce que tu dis, Nazim, c'est le fait de dire on a envie d'être sauvé. Est-ce qu'on peut imaginer un patient, quelqu'un qui serait atteint du Covid, qui dirait non mais moi je veux pas qu'on me soigne, c'est pas grave, je préfère mourir.
Bah non.
Donc voilà. Donc quelque part, c'est
Si ça existe.
Ah.
Ça existe.
Oui.
Alors vas-y, Annie, raconte-nous.
Bah, tout dépend de l'âge que vous avez. Moi, j'ai rencontré des gens qui sont prêts à dire « Épargnez-moi une souffrance terrible », mais en ce moment, on a le sentiment qu'on sacrifie une jeunesse.
Oui.
Il y a quand même plus de 11 millions de jeunes, enfants, étudiants et autres qui vivent quelque chose que nous n'avons jamais connu.
Oui.
Et on les prive de leur jeunesse, on les prive de tout. Et on les prive d'espoir.
Oui.
Donc, et on ne parle que des vieux. Et moi, j'en fais presque partie. Et je suis prête à dire, il faut accepter le sens de la vie. Et peut-être ça peut nous amener vers les textes philosophiques où on va se poser chacun.
Oui.
Est-ce que le principal n'est pas de bien vivre plutôt que de conserver sa vie biologique? Et je crois que là, il y a une vraie question qui doit se poser à chacun.
Oui.
Et si la philosophie a un sens pour moi, c'est celui-là.
Bon, bah, très bien. Alors, on va faire une petite pause musicale. Et puis, on reprendra avec l'étude, la lecture de ces textes et le partage, évidemment, de nos sentiments et réactions face aux textes respectifs. Que la verne, que le ténane, le cocyte, le cégiton, parce qu'ils ont de plus barbares, venge pour les vies des plutons. Que la verne, que le ténane, le cocyte, le cégiton, parce qu'ils ont de plus barbares, venge pour les vies des plutons. Venge pour les vies des plutons. Que la verne, que le ténard, le cocyte, le cégiton, parce qu'ils ont de plus barbares, venge pour les vies des plutons, venge pour les vies des plutons. Nous étions avec Jean-Philippe Rameau. Hippolyte et Arissi, qu'à servir mon courroux où l'enfer se prépare, que la verne, que le ténard, le cocyte et le flégéton. Venge, Proserpine et Pluton.
Chemin de pensée sur RCF.
Alors on continue avec ces chemins de pensée, on va remonter chez Sénèque et on va donner la parole à Sylvain qui va nous dire, c'est son choix personnel, il a été touché par la lecture de Sénèque, comment un philosophe stoïcien, un penseur qui se réclame d'une certaine tradition de pensée, eh bien... considère la mort.
Oui. Donc effectivement, hein, dans les lettres à Lucilius, donc le philosophe stoïcien Sénèque évoque à plusieurs reprises le thème de la mort. Et ce qui est intéressant, c'est que pour lui, la mort n'est pas une chose à craindre, en fait. Il est résolument tourné vers la vie et pense que la meilleure façon de bien vivre, c'est justement de ne pas craindre la mort et de s'y préparer. Alors bien sûr, pourquoi se préparer à la mort ? Ben, simplement parce que c'est quelque chose qui nous fait peur, tout simplement parce qu'on a un instinct de conservation qui est propre à la vie et à la vie consciente, que la mort est, alors je cite, que la mort est en elle quelque chose de terrible, qui effarouche cet amour de soi que la nature a mis dans nos âmes, nul n'en doute. On a aussi peur de l'inconnu, hein, encore un autre passage. Voici encore pourquoi la mort nous effarouche. Ce monde où nous sommes, nous le connaissons. Mais où l'on passe au sortir de là, nous l'ignorons. Que sera-ce ? L'inconnu fait peur. Alors pourtant, dès les premières lettres à Lucilius, Sénèque explique à Lucilius qu'il n'est jamais grand le mal qui termine tous les autres. Pourtant, alors bien sûr, Lucilius, lui, de son côté, il dit bah, « c'est quand même difficile d'amener notre âme au mépris de la vie ». Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, du coup, Sénèque prend un peu à contre-pied en disant qu'il y a plein d'exemples de personnes qui trouvent, entre guillemets, alors je cite aussi Sénèque, de frivole motif, de quitter la vie. Des gens quittent la vie par peine amoureuse, pour fuir une situation difficile. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Et alors, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est qu'on voit que Sénèque ne pose pas comme priorité la longévité de la vie, mais quelque part la qualité de la vie.
Mais est-ce que les motifs qui poussent les gens à quitter volontairement la vie, à se suicider, est-ce qu'on peut les dire ce sont des frivoles motifs ? Je suis pas sûr.
Il donne des
Alors, c'est le jugement de Sénèque.
Ouais, c'est le jugement de Sénèque.
C'est le jugement de Sénèque, bien sûr. Mais il explique. Alors après. Il faut bien remettre en perspective dans le contexte. il parle à plusieurs reprises du suicide, justement. Mm. Et il va expliquer que le suicide n'est pas forcément une mauvaise chose. Enfin, n'est pas forcément quelque chose de condamnable, ou comme ça a pu l'être d'ailleurs dans les religions, hein, souvent.
Même chez Platon, enfin, on y reviendra. Oui.
Mais donc, il va bien sûr revenir en détail sur ce point-là.
Hein. Oui.
Mais il explique qu'il peut y avoir des raisons. Il y a tout un tas de raisons qui peuvent expliquer ce genre de gestes. Alors effectivement, pour lui, il y en a certaines qui sont pas forcément justifiées. Voilà, c'est simplement ça que lui dit. Hein. Donc, on voit que Sénèque ne pose pas comme priorité la longévité de la vie. Il explique, hein, nul ne saurait vivre en sécurité s'il songe trop à vivre longtemps.
Oui.
Je trouve ça chez les Montaigne.
Aussi, le sage vit autant qu'il le doit, non autant qu'il le peut. Mmh. Donc, voyez. Par contre, ce qui est important pour lui, c'est le fait de bien vivre. Tu n'ignores pas qu'il ne faut point se cramponner à elle. Car ce n'est pas de vivre qui est désirable, c'est de vivre bien.
D'accord. Alors, moi, la première réaction que j'ai envie de vous... La première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que tout cela n'est pas... Je vais employer un mot fort, n'est pas daté, dans le sens où ces réflexions prenaient place dans un monde où l'être humain n'était pas défini biologiquement. Hein, je pense que Lucilius et Sénèque, quand ils discutent, ils voient un être humain comme l'union d'une âme et d'un corps. Mm-hmm. On est d'accord. Oui. Nous ne voyons plus l'être humain de cette façon.
Non.
Ça persiste chez Montaigne.
Et ça persiste chez Montaigne. Oui. Mais il y a une cassure qui va se faire à un moment
donné.
Ça a
été vu longtemps encore comme ça. Hein. C'est vrai que c'est assez récent qu'on ne voit plus les choses.
Et alors, la question que j'ai envie de vous poser... qui est une question évidemment difficile, c'est est-ce que ça ne devrait pas nous faire réfléchir sur le fait que nous n'avons plus la force de considérer un être humain comme l'union d'une âme et d'un corps ? Est-ce que le problème ne vient pas de là et que finalement tout cela, on va le dire, on va dire « Ah, bah, c'est bien beau, mais au fond, en quoi ça me concerne, quoi, quelque part ?»
Alors, je pense que ce que l'on a peut-être effectivement perdu ces derniers siècles, peut-être, c'est l'idée qu'il puisse y avoir une continuité après la vie. Mmh. Donc, est-ce que c'est la séparation de l'âme et du corps ? Ça, c'est encore un autre problème. Mmh. Mais effectivement, jusqu'à très récemment dans l'histoire humaine, on avait cette idée d'une certaine continuité sous une forme ou une autre, mais il y avait une idée de continuation et de cycle même.
Oui.
Platon en a parlé, Sénèque, et puis ça a été repris par d'autres, hein, bien sûr. Mmh. Et cette dernière époque que l'on vit, ces choses-là ont tendance à disparaître. Et on s'attache plus peut-être au côté matérialiste de la vie, qui fait que du coup, on a plus de raisons d'être attaché à la vie parce qu'on se dit qu'il n'y a peut-être rien après, quoi.
Oui, oui.
Donc voilà.
Oui. Il n'y a rien après. C'est-à-dire que même ce que je dirais, c'est que même, j'ai l'impression que même si on ne pense pas à un au-delà, avant, il y avait quand même si on ne pense pas à un au-delà, par exemple l'exemple des résistants, la possibilité de donner sa vie pour quelque chose de grand.
Je pense.
Et cela nous manque peut-être. Cela nous manque même de donner sa vie. Évidemment, si on va y revenir plus tard. Si il y a quelque chose à espérer au-delà du sensible, bon, ça nous donne tout de suite quelque chose de grand. Mais qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui, au 21e siècle, faire que quelque chose dit, mais il y a quelque chose de plus grand que moi? Même si c'est pas de l'au-delà, de le truc, est-ce qu'il reste encore quelque chose ? C'est une question que j'ai envie de vous poser. Si la réponse est zéro, alors on n'a que ce qu'on mérite. Hein.
Mais pas forcément. Mmh, mmh. Il peut y avoir une autre dimension.
Oui.
Je pense que l'être humain n'est pas réductible à sa dimension biologique. Mmh. Et moi, je ferai écho aussi à ce que disait Sylvain en citant Montaigne.
Oui, oui. Hein,
Montaigne qui considère que la mort fait partie de la vie. Oui. Elle est inévitable. Et justement, philosopher, c'est apprivoiser la peur de la mort, se la représenter et garder cette possibilité de vivre une vie heureuse, mais une vie heureuse qui est celle de l'homme, de l'honnête homme en quelque sorte, de l'homme d'entendement.
Oui.
C'est pour ça que par ce chemin, l'homme d'entendement, ben Montaigne est quand même quelqu'un qui a exercé des fonctions politiques, il a été maire de Bordeaux, il a participé aux négociations au moment terrible des guerres de religion, il a fait tout ce qu'il a pu pour justement apaiser un petit peu les choses à cette époque-là.
Oui.
Donc c'est l'honnête homme qui n'oublie pas non plus la dimension communautaire.
Bon, on peut lire un peu de Montaigne alors. Alors c'est oui. Le chapitre 20 des Essais hein, qui est intitulé « Que philosopher, c'est apprendre à mourir ». Et la première phrase nous dit « Cicéro dit que philosopher, ce n'est autre chose que s'apprêter à la mort ». Ce qui fait un écho à ce que tu viens de lire.
Oui, c'est apprivoiser la peur de la mort.
Voilà.
Parce que si elle nous fait peur, c'est un sujet continuel de tourment qui ne se peut aucunement soulager.
Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait lire comme c'est un long chapitre, donc il faut choisir quelques extraits. Annie, qu'est-ce que tu souhaites nous partager dans ce chapitre de Montaigne ?
Moi, j'ai été sensible à la place que donne Montaigne à l'homme au sein de la nature. Il fait parler la nature dans la prosopopée de la nature, et c'est la nature qui parle, c'est la fin du chapitre. Mais auparavant, il y a déjà des phrases qui vont dans le même sens, hein, comme « Notre naissance nous apporta la naissance de toute chose », aussi fera la mort de toute chose, notre mort. La mort est origine d'une autre vie. Donc il y a cette dimension et la nature nous y force. Sortez, dit-elle, de ce monde comme vous y êtes entrés.
Alors ça c'est très intéressant parce que juste à l'écoute, hein, quand il dit la mort est à l'origine d'une autre vie, eh bien on peut entendre autre vie de deux façons.
Oui, exactement.
Et c'est très intéressant. Une autre vie qui viendra après nous, ou une autre vie, une autre vie de, par exemple, vie de l'âme, etc. Et c'est intéressant de voir que peut-être, qu'il ne faut peut-être pas opposer ces deux voies-là. Elles ne sont pas opposables. Ça, c'est intéressant.
Je pense qu'on retrouve un petit peu quelque chose qui fera son chemin jusqu'au 19e siècle avec un Victor Hugo, nature, tout vit, tout est plein d'âme. Je suis Pan, Jupiter à genoux. Enfin, il y a plein de formules de Victor Hugo qui montrent qu'il n'y a pas de divorce entre cette autre vie qu'on a tendance à considérer de façon abstraite et à travers les monothéismes comme une vie à l'image, qui a une image anthropologique. Alors que il s'agit d'une dimension qui peut être, au fond, qui consacre une forme d'unité de l'être, qui est à la fois une dimension spirituelle. C'est pour ça, sauver des vies pour qu'elles vivent, moi, c'est celle-là qui est importante, parce que c'est par celle-là qu'on fait société, et c'est par celle-là que se fait le partage et la compréhension des autres. Et c'est pour moi, c'est le même passage que vous faites de la mort à la vie, sans passion et sans frayeur. Refaites-le de la vie à la mort, votre mort est une des pièces de l'ordre de l'univers, c'est une des pièces de la vie du monde. Le premier jour de votre naissance vous achemine à mourir comme à vivre, etc. Et si vous avez fait votre profit de la vie, vous en êtes repu et allez-vous-en satisfait. Donc l'essentiel est quand même le bien vivre.
Et c'est intéressant parce que dans ce cycle que décrit Montaigne, c'est quelque chose qui est finalement qu'il a repris de Platon et Sénèque, puisque Sénèque aussi en parle. Et Platon, bien avant, en avait parlé également.
Sans arrêt, Sénèque, Lucrèce, etc.
Effectivement. Anne, est-ce que tu veux réagir ? Est-ce que ça nous donne des pistes par rapport à ce que tu voulais signaler par rapport au texte d'Olivier Rey ?
Pas par rapport au texte d'Olivier Rey, mais par rapport à la question que tu posais dans le style « Qu'est-ce qu'on peut faire si on ne croit plus en Dieu ?»
Oui.
Je voulais déjà rebondir, déjà même par rapport à Socrate.
Oui.
Parce que s'il est vrai que c'est probablement Platon qui était à l'origine de l'âme immortelle, Platon n'avait pas que cette facette. Quand il faisait parler Socrate, il parlait de l'âme, du soin de l'âme. Oui. Et ce soin de l'âme n'était pas que parce que je veux aller vers une vie meilleure et infinie. Ça parlait ce soin de l'âme, ça parlait aussi de l'amour du beau.
Oui.
Ça parlait aussi du soin de la communauté.
Oui.
Et ça, c'est toujours valable, même si on ne croit pas en Dieu. Je veux dire, on peut dissocier le Platon qui nous parle de l'éternel, du Platon qui nous parle de l'âme et du beau. Et je voulais rebondir aussi justement sur Nietzsche, parce que Nietzsche a beaucoup critiqué Platon, justement dans son aspect la vie est un petit peu trop sérieuse, trop platonique, trop tout ce qu'on veut avec Platon, et il n'y a pas de vie. Mais Nietzsche aussi nous propose autre chose, nous propose probablement quelque chose qui va beaucoup vers le beau, beaucoup vers énormément de spiritualité, de poésie. Et je pense que tout ça, c'est des choses qui nous donnent envie de vivre.
Très bien. Mais précisément, est-ce que notre époque, est-ce que notre époque, ce que je vous pose comme question, n'est pas prête à recevoir tout ça, finalement ? Est-ce que, voyant, encore une fois, la vie comme un processus biologique, est-ce que nous ne sommes pas, entre guillemets, à côté de la plaque ?
Mais
c'est ça la question.
Moi, je pense que les voix qu'on entend,
Les voix qu'on entend sont ceux qui sont pour la vie biologique.
Oui.
Il y a
voilà.
toujours des personnes.
Il y a des petites voix et des petites
voilà.
femmes.
Voilà, ouais. elles ne sont pas entendues.
Oui.
Elles ne sont pas sur,
oui.
voilà, sur les radios qui passent à 20 heures. qui sont
fait.
Non.
Entendu. Alors, donc, on commence à faire un petit tour des différentes pistes, chemin de pensée, chemin de méditation. Je vous propose encore une toute petite pause musicale. Et puis après, on va plonger dans Platon avec la question que tu viens de soulever. Qu'est-ce que c'est que cette âme et cette tendance à l'immortel? Et comment méditer Platon? Christ lacte in todes banden. Le Christ gisait dans les liens de la mort. Jean-Sébastien Bach. Petit clin d'œil, si on peut dire, enfin un petit regard vers le fait que toutes les traditions religieuses ou spirituelles nous mettent en face de la mort. Hein, nous mettent en face du problème de la mort. Alors que notre époque semble rendre la mort chose indésirable, invisible,
négation
de la mort, claire, et qui s'est exprimée de façon cruelle et souvent honteuse lors du premier confinement, enfin, le premier épisode, la première crise du coronavirus, puisque on a interdit les cérémonies funéraires. Chose qui, je pense, n'est quasiment jamais arrivée dans l'histoire de l'humanité. Je pense que ça n'a pas dû arriver souvent. Et je me rappelle avoir lu des articles assez terribles de gens qui racontaient qu'ils avaient reçu le corps de leurs parents, de leur mère en l'occurrence, dans un sac de déchets biologiques.
Chemin de pensée sur RCF.
Alors, qu'on en soit arrivé là devrait nous faire réfléchir sur cette expulsion de la mort du champ de réflexion. C'est-à-dire que évidemment la mort n'est plus devenue qu'une cessation de la vie biologique. Et à ce moment-là, est-ce qu'on n'est pas totalement à côté de la plaque, d'où la nécessité de revenir au texte?
Alors justement, ouais, juste une petite parenthèse, hein, mais comme on disait tout à l'heure, les anciens ont quand même bien réfléchi à ça, et pour eux c'était un point central, la méditation sur la mort.
Oui.
Hein, Sénèque dit à un moment donné, savoir mourir est la seule chose qu'un jour on exigera forcément de nous.
Exact, bah, exact.
C'est voilà. Ce que dit Montaigne aussi.
Voilà. Oui. Donc, ouais. Tu veux lire,
c'est
Annie,
enfin, entre guillemets, de méditer sur ce point-là.
Exactement.
Ce
point-là, hein. Oui, oui, oui.
Ben, je crois que c'est philosopher, c'est justement une sorte d'apprentissage qui doit abolir la peur, qui empêche de vivre, parce que dans l'esprit de Montaigne, la vie doit être mise à profit pour quelque chose d'autre, le bien vivre, qu'il définit aussi comme une attention aux autres. Il y a d'autres chapitres, hein, l'amitié, il y a beaucoup d'autres choses dans les essais que ce chapitre sur philosopher, c'est apprendre à mourir. Et, donc il y a une véritable réflexion sur la liberté, c'est-à-dire que cette sorte de conquête, c'est même pas une conquête, c'est quelque chose qui doit être fait avec une sorte de souplesse, il parle même de volupté. Si on se représente la mort, eh bien la préméditation de la mort est préméditation de la liberté, qui a appris à mourir, il a désappris à servir. Et c'est le terme important, parce que le problème de la servitude est celui que l'on connaît un petit peu actuellement. Le savoir mourir nous affranchit de toute suggestion et contrainte. Il n'y a rien de mal en la vie pour celui qui a bien compris que la privation de la vie n'est pas un mal.
Voilà, ça c'est magnifique, hein, c'est des passages de Montaigne absolument magnifiques.
C'est lumineux.
Qui a appris à mourir a désappris à servir. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose de lumineux et qui peut nous servir de soutien,
surtout,
je pense. Oui, oui.
Je veux que la mort me trouve plantant mes choux, hein, et quand je mourrai, puisse-je en plein travail partir, citation d'Ovid qu'il reprend à son compte. Et donc il y a une sorte de, je ne sais pas si on peut parler de morale, mais de morale de l'action.
Oui.
C'est-à-dire mettre sa vie à profit pour agir, mais sans avoir trop d'ambition, se projeter. Donc il y a toujours cette dimension du Meden Hagan, rien de trop.
Une chose dont on a discuté aussi quand on préparait cette émission, c'était de dire... beaucoup d'œuvres magnifiques ont été faites sous la pression de la mort. On pense à Proust qui savait qu'il était malade, Mozart.
À Kant. À Kant qui était vieux quand il a commencé.
Ah oui, il a commencé. Enfin, tout un tas de personnes qui, sans cette idée que
la mort était pour prochaine,
leur vie était finie, ne se serait pas lancé dans l'établissement d'œuvres colossales. Donc la mort, en tant que fin, n'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose qui donne une forme. Ça, s'il n'y a pas de fin, il n'y a pas de forme.
Mais tu veux, je cite très bien André Chédide.
Oui.
André Chédide qui disait, puisqu'on avait eu la chance de travailler avec elle il y a quelques années, que chaque jour, elle qui a connu la guerre au Liban, puisqu'elle vivait entre l'Égypte et le Liban à une certaine période, chaque jour est un miracle. Chaque jour doit être donc considéré comme un cadeau. Je trouve que ce bien vivre et cette beauté dont tu parlais, Anne, on peut essayer de la cultiver au quotidien, et c'est peut-être ça un des chemins.
Oui. Alors, revenons justement à ce que nous dit Platon à propos de cette question de la beauté. Alors, il y a un thème où la question de la mort est prise de façon centrale chez Platon, c'est ce dialogue qui s'appelle le Phédon. Et le Phédon nous raconte Socrate qui va mourir et qui est dans sa prison. Donc, il y a une suite de trois dialogues. L'apologie de Socrate qui raconte le procès de Socrate. Ensuite, c'est le Criton, où Socrate dit « ce sont les lois de la cité qui m'ont fait », c'est la fameuse prosopopée des lois, et je ne vais pas trahir les lois au soir de ma vie et m'enfuir, puisque le peuple m'a jugé, certes, de façon indigne, mais il ne s'agit pas pour moi de se soustraire à la mort. Et ce troisième dialogue qui est le Phédon. Et alors, c'est drôle parce que il dit qu'il a eu la vision des muses, enfin, ou un dialogue avec les muses, un songe qui lui a ordonné de pratiquer la musique, c'est-à-dire l'art des muses, et il dit ça, c'est la plus haute philosophie. Hein, en 61A de la pagination estienne, et il dit ensuite, toutes les fois qu'on s'adonne à la philosophie, au droit sens du terme, les autres, les non-philosophes, ont bien des chances de ne pas voir qu'on s'applique uniquement à mourir, à être mort. Hein? Alors ça, c'est le thème que Montaigne reprendra, philosopher est apprendre à mourir. Mais je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ce dialogue, dans le Phédon, c'est que Socrate, Socratise, là, il va aller au bout des choses. Hein? Il va dire, hypothèse A, hypothèse B, comme nous le faisons, nous scientifiques, et il dit, est-ce que la mort est quelque chose? Est-ce qu'il y a un être à la mort. Donc, il va regarder l'être de la mort. Ce qui pose problème, et ce que Nietzsche, comme tu le signalais, Anne, lui reprochera évidemment, c'est que pour lui, il y a opposition âme et corps. Alors, je crois qu'il ne faut pas trop vite dénoncer cette opposition, mais essayer déjà de la comprendre. Parce que il y a évidemment toute une réflexion, qu'on ne pourra pas dire ici, mais on invite nos auditeurs à aller lire le Phédon, sur le fait que la nature est toujours équilibre. Donc, des vivants viennent les morts, et des morts proviennent aussi les vivants. Donc, ça veut dire que il se pose des questions sur les âmes, hein, puisque on a dit que chez les Grecs anciens, il y a une âme, c'est l'âme qui fait que l'être humain est ce qu'il est. Hein. Quelle est la nature de l'âme? Est-ce qu'elle tend vers l'immortalité? Qu'est-ce qu'elle est? On ne sait pas tellement, mais c'est sujet de réflexion. Je ne crois pas qu'il y ait une doctrine finie achevée chez Platon. En tout cas, moi, je ne la vois pas. Et comme tu le disais, Anne, l'âme ne devient âme elle-même que dans la mesure où elle tend vers le beau et vers le bon. Et je crois que ça peut nous mettre en regard notre époque où cette tendance vers le beau et le bon, et comme tu disais, Annie, si moi je suis capable de sacrifier pour que le beau et le bon et le juste surviennent, oui, c'est un mouvement qui est totalement platonicien dans sa réflexion. Est-ce que vous voulez réagir par rapport à ça?
Alors, je crois qu'en posant cette question, est-ce qu'on n'arrive pas à poser le problème de ce qui fait lien aujourd'hui dans la société, c'est-à-dire la culture?
Oui, oui.
Je pense que...
Oui, qu'est-ce qu'on entend par culture? Qu'est-ce que tu entends, Annie, par culture? Est-ce que c'est pas une espèce de chose, de processus lui-même industriel, la culture?
Non, justement.
Non, c'est un ensemble, c'est un projet de société.
C'est un projet de société.
C'est quoi la société dans laquelle nous voulons vivre et pour laquelle nous sommes prêts justement à défendre quelque chose et peut-être, comme tu dis, au sacrifice. Et ça, c'est un problème aujourd'hui parce qu'on sent qu'effectivement ce truc-là, enfin cette notion-là a tendance à se perdre. En fait, je crois que beaucoup de gens ne se reconnaissent plus dans ce projet de société.
Voilà. Et alors, est-ce que nous n'avons pas tendance à nous perdre parce que nous ne croyons plus ou nous ne sommes plus capables de concevoir qu'il y a quelque chose d'indestructible, d'immortel, de permanent? Finalement, est-ce que la science et la technologie n'est pas la chose qui prend ce rôle de sacré parce qu'elle nous met, enfin, une loi physique, un théorème, c'est quelque chose d'impermanent, de là tout le temps. Est-ce que c'est pas la raison pour laquelle, je dirais, la science et la technologie prennent le pas sur toute autre considération? Et donc, quand on dit culture, je sais pas vraiment qu'est-ce qu'on entend par là.
Est-ce que, une sorte de dérive, ce que tu dis là, la dérive technologique.
J'irais presque que c'est le chemin inverse, c'est-à-dire que... Quand tu fais un projet de société, que tu imagines une société idéale, un peu à l'image de Platon, dans la République.
Oui, oui.
Là, tu crées une transcendance. Tu crées quelque chose où les gens vont être motivés pour faire perdurer ce bien-là, tu vois, de génération en génération et de le transmettre. Oui. Et le problème, au contraire, c'est que notre société, justement, s'est orientée vers, avec les révolutions industrielles et autres, vers une technologie très forte qui, nous, quelque part, peut-être nous a aveuglés et on se reconnaît plus, on n'arrive plus peut-être à savoir quel est le projet de société dans lequel on est, puisque, en plus, évidemment, il y a tout un tas d'éléments qui font que l'individu est un peu noyé dans tout ça, et qui, du coup... peut-être justement enlève cette idée de sacrifice, cette idée de se dépenser entre guillemets pour une société dans laquelle on a du mal à s'inscrire en fait.
Oui, plus de mal. Moi, je vais vous lire ce que dit les quelques lignes qu'écrit Olivier Herré, page 40 de son essai. Il dit: on a décrit la modernité comme un passage de l'hétéronomie à l'autonomie. Mm-hmm. Autonomie, auto c'est soi-même et nomos c'est les lois. Je me donne à moi-même mes propres lois. Une émancipation des hommes vis-à-vis de toutes les instances qui avaient autorité sur leurs actions, mm-hmm, religion, nature, tradition. Hein, on a parlé un peu de la question de la religion, la question de la nature. La tradition, on l'a pas tellement évoquée, mais ça pourrait faire l'objet d'une émission. Une liberté pleine et entière le réclamait. Avec le recul, il est permis de se demander si le rejet de toute transcendance a permis que s'accomplisse la promesse et n'a pas apporté avec lui de puissants germes de servitude. Voilà. En même temps qu'elle oblige, la transcendance dégage de bien des suggestions, elle lit, mais aussi elle délie.
Oui. C'est précisément, moi, le sens que je donne à la culture. Je songe aux sociétés antiques. Le théâtre grec, et encore il y a une trentaine d'années, lorsqu'il y avait des festivals de théâtre à Nancy, on recevait des troupes du monde entier, Et je me rappelle d'une troupe qui venait du fin fond de la Russie, je ne sais plus où exactement, où le théâtre avait cette fonction originelle qui permet à une société de se regarder vivre et donc de faire lien tout en ayant cette dimension de beauté à laquelle on est attaché dans tout art. Mmh, mmh. Même chose pour la musique. Or, actuellement, on a le sentiment d'un massacre. Mmh. Donc, je pense que... Bon, certes, il faut s'occuper de la santé des gens, mais lorsque la santé morale et mentale est en danger, ce qui est le cas pour une bonne partie aujourd'hui des jeunes, il faudrait peut-être se poser des questions, et des vraies questions. Hein, enfin, voilà.
Très bien, merci Annie pour ces très bons mots de conclusion qui font réfléchir et qui disent dans quelle direction nous pouvons essayer de travailler collectivement. Merci, et puis rendez-vous les semaines prochaines pour une prochaine émission des Neveux de René, Chemin de Pensée.